C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Produire et consommer sans laisser de traces. Cela nous semble impossible quand nous observons à quel point nous détruisons notre environnement avec nos déchets et des pollutions en tout genre. Pourtant, c'est ce que fait le reste du vivant depuis 3,8 milliards d'années. Ce laboratoire à ciel ouvert peut nous inspirer et nous aider à enfin inventer un rapport apaisé entre l'économie et l'écologie qui sont toujours présentées comme irréconciliables. S'inspirer du vivant, c'est une science qui s'appelle le biomimétisme et c'est la thématique des deuxièmes rencontres de l'économie qui ont lieu près de Lille, dans le nord de la France, dans les locaux de l'entreprise Pocheco, où nous avons installé notre studio. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Emmanuel Druon.
Bonjour Anne-Cécile et merci de votre invitation et de votre présence.
Vous êtes le directeur de Pocheco. Pocheco, c'est une entreprise de 77 salariés qui produit 2 milliards d'enveloppes par an près de Lille, donc je le disais, dans le nord de la France. Alors, inventer de manière empirique, on peut le dire comme ça, je pense que l'économie a fait ses preuves puisqu'il y a plus de 30 000 salariés de 250 entreprises qui l'appliquent désormais dans une dizaine de pays. Et c'est pour partager justement ces 25 années d'expérience que vous avez créé ces rencontres de l'économie. Et vous avez choisi cette année le thème du biomimétisme. Pourquoi ?
Parce que le biomimétisme est une manière d'entreprendre sans détruire. Si l'on s'inspire du vivant, on découvre en lisant les œuvres de vos invités aujourd'hui, qui sont aussi les invités de ces rencontres de l'économie, que le vivant, en règle générale, doit intégralement nous inspirer dans tous nos actes. Prenons simplement un exemple, la nature ne laisse pas de traces. Et nous arrivons dans une époque où l'effondrement de notre système principal de production, quelles que soient les activités qui sont celles des humains, produisent à la fois l'épuisement des ressources partout dans le monde, l'accumulation des déchets toxiques partout dans le monde. Et les scientifiques le disent toutes et tous, le dérèglement du climat. À nous tout seuls, nous savons que nous ne pouvons pas changer le monde. En revanche, nous croyons vraiment que nous pouvons nous saisir de cette problématique dans notre quotidien en mettant en application dans le travail de tous les jours. Après tout, quand on a la chance d'avoir du travail, on passe un tiers de sa vie dans son entreprise. Et donc, c'est dans le quotidien qu'on peut intervenir et tout changer. Et depuis 25 ans, nous avons considéré qu'il fallait que nos actes correspondent à nos convictions et que nous ne perdions pas notre citoyenneté en franchissant les portes de l'entreprise. Et que donc, protéger la santé humaine au travail passerait par le fait de changer les matières premières qu'on utilise et qui étaient toxiques dans le passé.
De l'encre, en l'occurrence.
De l'encre, des colles. Tous les produits que l'industrie nous proposait étaient toxiques, sans que, d'ailleurs, on s'en émeuve beaucoup. En fait, c'était un sujet de produire des enveloppes les plus performantes possibles, les mieux imprimées possibles, mais ça n'était pas un sujet que, pour produire ces enveloppes performantes, on dégrade la santé humaine et, par voie de conséquence, on ait toutes les chances de dégrader le milieu naturel. Donc, à l'heure de la prise de conscience et surtout de la meilleure compréhension, parce que les scientifiques nous informent. Ce sont des guides, ce sont même des feuilles de route pour l'entreprise du 21e siècle qui doit comprendre maintenant, et les salariés le comprennent, que si l'on ne respecte pas les ressources et l'environnement, on n'a aucune chance que ça continue.
Alors la question que l'on se pose, c'est comment faire pour justement s'inspirer du vivant, respecter le vivant, tout en continuant à produire. Bonjour Kalina Raskin.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure physico-chimiste, vous êtes docteur en biologie et vous êtes directrice générale du Centre d'études et d'expertise en biomimétisme, le CEBIOS, en France. Le biomimétisme, c'est justement un moyen peut-être de réconcilier économie et écologie, ce que je disais en introduction, parce qu'on s'inspire du vivant qui... comme le disait Emmanuel, lui, ne laisse pas de traces.
Alors, ce qui est effectivement très intéressant dans l'observation des systèmes biologiques, c'est d'arriver par la science. Et on a aujourd'hui les moyens scientifiques de comprendre comment fonctionnent les systèmes biologiques, donc comment ils arrivent à résoudre des grandes problématiques auxquelles n'importe quelle entreprise doit faire face aujourd'hui. Donc comment être plus sobre en énergie, comment accéder à des énergies renouvelables, comment stocker le carbone, comment opérer une chimie qui va être une chimie beaucoup plus douce et utilisant des matières non toxiques, comment fabriquer des matériaux qui vont être des matériaux capables à la fois de performance technique, mais également de performance environnementale, parce que pour chaque molécule produite dans l'environnement biologique, il y a en général un autre organisme présent pour venir la métaboliser. Et comment, par exemple, le vivant gère l'eau, cette ressource qui devient de plus en plus complexe à gérer pour l'humanité, tant dans son absence par les sécheresses ou au contraire par la surabondance dans certaines régions du globe par les déséquilibres mondiaux du climat. Et ça, le vivant sait extrêmement bien gérer l'eau, puisque nous sommes toute espèce biologique et constituée en grande majorité d'eau. D'autres grands domaines dans une société qui se numérise et qui essaye de plus en plus d'accéder à l'information, que ce soit au niveau français ou même international, on voit bien que le numérique prend une place prépondérante, que cet accès à l'information est prépondérant. Le vivant a besoin pour sa propre survie d'échanger un très grand nombre d'informations, mais sauf qu'il le fait, encore une fois, avec beaucoup de sobriété, que ce soit en termes de consommation d'énergie ou encore en termes de consommation de matière. Donc à tous ces niveaux-là, qui sont des grands défis rencontrés par la plupart des entreprises et donc par le monde économique, on peut trouver des modèles biologiques intéressants. Et le fait que effectivement la science progresse, on peut aujourd'hui trouver des nouvelles idées issues du monde vivant. Ce qui est intéressant, c'est que cette connaissance scientifique, elle vient, dans certains cas aussi, consolider beaucoup de savoirs et d'observations qui sont ancestraux, mais qu'on a soit oublié, on va dire, dans des pays où la relation à la nature s'est largement effilochée, soit qu'on retrouve encore, en fait, dans certains peuples qui, eux, sont plus près de la nature et qui ont, sans la science, réussi à trouver tout cela.
Vous parliez d'enveloppe performante, Emmanuel Druon, tout à l'heure. J'aimerais maintenant donner la parole à Olivier Amand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, directeur de recherche à l'INRAE et directeur de l'Institut Michel Serres. Alors, le progrès humain est alimenté par un moteur qui est la quête de la performance, justement. Et à l'inverse, vos recherches vous ont conduit, donc vous, à la base, vous étudiez le comportement des plantes. Et ces recherches sur les plantes vous ont conduit à comprendre que le moteur du vivant, c'est plutôt la robustesse. Alors déjà, c'est quoi la différence entre la performance et la robustesse et comment ça peut nous aider, nous, humains, à comprendre comment travailler en impactant le moins possible ?
Alors, ça, pour moi, c'est une grande question, en effet. Mais c'est vrai que c'est important de revenir aux définitions pour être bien sûr de parler de la même chose. Donc, pour moi, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc, c'est ça, c'est la définition du contrôleur de gestion, quoi, grosso modo. Et la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Ce qui m'intéresse là-dedans, donc, d'un point de vue plus purement biologique, c'est qu'on se rend compte que si on regarde un petit peu le cœur nucléaire de ce qui fait fonctionner un être vivant, les réseaux de gènes, les réseaux moléculaires, les réseaux des écosystèmes, c'est que des interactions dans tous les sens. Et c'est construit sur énormément de points faibles. Enfin, des points faibles du point de vue d'un humain du 21e siècle, des contre-performances, c'est-à-dire des hétérogénéités, des lenteurs, des délais, beaucoup d'incohérences, énormément de redondances. C'est ça qui construit le vivant.
Par exemple ?
Par exemple, dans une forêt, il y a plein d'arbres d'espèces différentes. Tous ces arbres filtrent l'eau, par exemple. Bon, ils ont des fonctions un petit peu différentes, mais finalement, si on prend juste la fonction de filtration de l'eau, ils le font tous, quoi. Il y a plein d'espèces. Elles sont toutes différentes. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi il n'y a pas juste une espèce d'oiseau, une espèce d'arbre, à la limite, d'une façon un petit peu absurde. Mais on se rend compte que c'est l'hétérogénéité de ses partenaires, qui sont un tout petit peu hétérogènes, redondants. C'est ça qui donne de la robustesse à tout l'écosystème. Il faut toute cette diversité, toute cette redondance pour que le système fonctionne.
Donc en fait, il faut que nous changions d'objectif, nous les humains, et ne plus être obsédés seulement par la performance, mais par la robustesse. C'est pas du tout dans notre schéma de pensée, ça.
C'est vrai, et pourtant, il y a que comme ça qu'on peut être durable. Finalement, la durabilité, enfin, se projeter dans le long terme, c'est un peu du déclaratif, se dire, voilà, je vais durer, bon, très bien. Mais comment on fait ? Être performant, c'est le choix du court terme. C'est qu'en fait, quand on est très performant, on brûle très vite les choses et on va rapidement dans le mur.
Est-ce que c'est la différence entre un coureur de 100 mètres et un marathonien?
Oui, ouais, exactement. Mmh. C'est l'endurance. C'est, on doit être plus endurant. On doit respecter sa santé, etc. Donc en fait, quand on est dans la performance et quand on pousse vers le maximum de performance, en général, ça se passe mal. Hein. C'est le burn-out, hein, très clairement. Hein. Donc c'est le burn-out des humains, le burn-out des écosystèmes, etc. Quoi. Donc
c'est ce vers lequel on s'approche en ce moment.
On est dedans, en fait.
On y est.
Si on pense à l'effondrement de la biodiversité, 30 à 40% des espèces menacées de disparition, c'est un burn-out de la biodiversité.
Bonjour Béatrice Crémer-Cochet.
Bonjour.
Vous êtes agrégée en sciences naturelles, experte au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, naturaliste de terrain et cofondatrice de l'association Forêt Sauvage. On en parlera tout à l'heure. Comment est-ce que vous réagissez aux propos d'Olivier Hamant, vous qui scrutez le vivant? Est-ce que cette notion de robustesse, ça vous parle? Et comment, selon vous, ça peut nous aider, nous les humains, à être plus résilients?
Alors, plus que robustesse, moi je dirais justement résilience. Quand on observe ce qui s'est passé dans la nature, on se rend compte que pour peu qu'on lui laisse la place et le temps, elle est extrêmement résiliente. Un exemple tout simple, le bison d'Europe par exemple. Au début du XXe siècle, il avait complètement disparu à l'état sauvage. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, il n'existait plus qu'une douzaine d'individus dans différents zoos. Il y a eu une vraie prise de conscience au début du XXe siècle par rapport à cette extinction-là et d'autres aussi. Et donc, un certain nombre de scientifiques se sont dit, bon, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Ils ont réussi à reproduire les bisons qui étaient en captivité. Et en 2021, après les avoir réintroduits, d'abord en Pologne et puis ensuite dans d'autres pays, notamment en Allemagne, dans des zones où il y a 600 habitants au kilomètre carré, donc ça montre quand même que la cohabitation entre la grosse bête sauvage et l'humain est possible. Donc en 2021, il y avait plus de 6000 bisons sauvages en Europe. Donc ça veut dire que rien n'est jamais perdu à partir du moment où il reste un petit peu. On peut, à partir de ce petit peu, redémarrer et ça nous montre que la nature libre est extrêmement résiliente. Et tout à l'heure, Kalina nous parlait de modèles inspirants pour l'humain par rapport à la biodiversité. Et je pense que ce à quoi il faut réfléchir maintenant, c'est permettre aux espaces naturels de retrouver une place suffisante pour qu'ils puissent fonctionner tout seuls. Et ces fonctionnements qui vont permettre justement d'inspirer, parce qu'une nature étriquée, préservée dans quelques petites poches qui ne sont plus fonctionnelles, elle ne va pas être inspirante. Et on va perdre beaucoup, l'humanité va perdre beaucoup si on perd ses fonctionnalités. Et un des exemples de fonctionnalités retrouvées qui est le plus facile et le plus marquant, c'est retrouver par exemple la continuité dans les rivières. Si je prends l'exemple du Rhône, eh bien, avant les grands barrages qui existaient sur le Rhône, il y avait 1 million de mètres cubes de sédiments qui étaient transportés chaque année, qui arrivaient à la mer Méditerranée et qui formaient les plages de Camargue. Depuis qu'il y a eu des barrages sur le Rhône, il y en a eu 19 plus sur les affluents, parce que certains affluents, notamment du côté Alpes, étaient également très transporteurs de tous ces sédiments. Depuis qu'on a mis tous ces barrages, il n'y a plus que 200 000 mètres cubes de sédiments qui arrivent. Et le bilan, c'est que les plages de Camargue, sous l'effet de l'érosion de la mer, qui n'est plus compensée par l'arrivée de sédiments, elles reculent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'économiquement, c'est beaucoup de coûts. Et humainement, c'est beaucoup d'angoisse aussi, parce que toute une partie du tourisme est basée sur l'existence de ces plages. L'existence même de certaines villes comme les Sainte-Marie-de-la-Mer ou d'autres sont basées sur la non-érosion et le maintien des rivages. Et donc finalement, on est obligé d'enrocher à grands frais, voire de ramener du sable qu'on est allé puiser dans les barrages ou ailleurs. Et ceci coûte extrêmement cher économiquement.
Alors en même temps, les barrages qui sont sur le Rhône produisent de l'électricité. Dans de nombreux pays, notamment en Afrique, il y a un vrai potentiel d'hydroélectricité où les populations rêveraient de voir construire des barrages pour avoir justement accès à l'électricité. C'est difficile de concilier tous ces impératifs?
Oui et non. Si on prend l'exemple de la France, on a à peu près 500 000 km de cours d'eau. Sur ces 500 000 km de cours d'eau, il y a environ 100 000 barrages ou retenues de tout type. Et en réalité, sur ces 100 000 barrages ou retenues, il n'y en a que 500 qui sont réellement des barrages utiles. Alors utiles, c'est bien sûr ceux qui produisent de l'hydroélectricité, mais pas que. On considère qu'à partir du moment où on a une retenue sur laquelle on peut faire du pédalo, c'est un barrage utile. Donc si on supprimait déjà tous les barrages inutiles, ça permettrait de rétablir une continuité avec d'une part la possibilité possibilité pour les poissons migrateurs de remonter et de retrouver des frayères très propices qu'ils ont perdues en amont des barrages, et d'autre part, à ces sédiments, de retrouver leur cours, leur circulation normale.
Donc pas non à tous les barrages, mais non aux barrages inutiles. Je vous propose une petite pause en compagnie de Jamie Rockway qui chante, ça va vous inspirer, « When you gonna learn », c'était, ça signifie « Quand allez-vous apprendre ?» et il chantait déjà ça il y a 30 ans. Yeah, yeah, have you heard?
Consequences are so grave, so, so grave. Now, the hypocrites, we are their slaves. So, my friends, to stop that end, on each other we depend. All we depend. Man, and how you live a deep. Stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. All people. On the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy man been killing off the laughter of the wise. And you better play in nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my bad, her bad, right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands.
Dans C'est pas du vent sur RFI, notre studio est installé dans les bureaux de l'entreprise Pocheco à Forest-sur-Marc, près de Lille, dans le nord de la France, à l'occasion des deuxièmes rencontres de l'économie. Une journée d'échange entre des salariés, des étudiants, des demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprise aussi autour du thème « Comment engager son entreprise dans l'économie de la transition en s'inspirant du vivant ?» Emmanuel Druon, vous êtes le directeur de Pocheco, c'est vous qui avez choisi ce thème, un thème que vous illustrez au quotidien depuis 25 ans, hein, on le disait, à travers les diverses pratiques dans votre entreprise. Alors, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? En gros, comment on passe du concept à l'action? Là, je dois dire qu'on est dans votre bureau, les fenêtres débordent de verdure. Au-dessus de nous, il y a un toit qui est végétalisé. Si on regarde un peu plus loin, on voit des endroits qui récupèrent l'eau de pluie. Enfin, je m'arrête là, mais donnez-nous quelques exemples qui illustrent que vous mettez en pratique ce dont on parle aujourd'hui.
Si je disais que le vivant, c'est le flux et la continuité, et que l'entreprise saucissonne et cloisonne. Tout mon travail avec l'équipe de Pocheco depuis 25 ans consiste à essayer de comprendre, de s'inspirer du vivant, et donc notamment de décloisonner et de prendre conscience que tous nos actes, sans aucune exception, ont des conséquences. Donc, quand on regarde les résultats d'une entreprise, par exemple, par le résultat strictement financier, c'est beaucoup ce que l'on fait. On considère que c'est normal. On regarde, il faut que l'entreprise soit rentable, qu'elle produise des bénéfices. En fait, on met la loupe sur le sujet de la profitabilité au détriment de plus en plus de nos jours, au détriment de tout le reste. Et un jour, dans cette phase de prise de conscience, d'information et de changement progressif, j'ai eu un débat avec un de mes collègues. Il était en train de me proposer une encre qui était non toxique, mais dont il me disait qu'elle était plus chère. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire, une encre plus chère ? C'est pourtant clair, c'est plus cher. Je lui ai répondu, mais qu'est-ce que vous voulez dire par plus cher ? Il m'a dit, bah, plus cher, c'est-à-dire que ça va vous coûter plus d'argent. Mmh. Ah, je lui dis donc, sur le plan économique, cette solution est plus chère. Mais dites-moi, sur le plan de la santé humaine, cette solution est plus ou moins chère ? Et sur le plan de la préservation du milieu naturel, cette solution est plus ou elle est moins chère ? Or, si l'on veut travailler longtemps et développer son entreprise, je crois qu'il faut d'abord s'appuyer sur une analyse des ressources, comprendre d'où viennent les flux et comment on peut travailler à ne pas les interrompre et à ne pas prendre le risque de faire pire que mieux. En fait, ce que je vous dis, c'est presque du bon sens. On sait bien, et depuis la nuit des temps et dans tous les pays du monde, que si on a besoin d'une matière, le moins on la chargera, le moins on transformera cette matière pour la charger avec des produits toxiques, moins elle sera difficile ensuite à dégrader.
Oui, mais en même temps, on peut très bien être chef d'entreprise et se dire je suis pas... mon rôle, c'est pas de sauver l'humanité, mon rôle, c'est de faire du chiffre. Et puis bon, si mon encre, elle a des impacts, c'est à d'autres de s'en occuper.
Oui, on peut aussi monter dans l'arbre, s'asseoir sur la branche et l'acier. Et si on est à 15 mètres de haut, on tombe et on s'écrase. Donc on peut continuer, en effet, de considérer le monde tel que le dogme entrepreneurial majoritaire nous dit de le faire. Et à ce moment-là, on continue d'aller dans le mur en klaxonnant le plus bruyamment possible pour témoigner à quel point vite nous allons dans le mur tous ensemble. Et c'est tout simplement la fin de l'humanité. D'après ce que j'ai compris en écoutant les interventions de nos invités ce matin, c'est pas la fin de la planète, mais c'est la fin de l'humanité. Bon. Alors, moi, à mon échelle de micro-entrepreneur dans une micro-entreprise qui fait un micro-produit, je considère que j'ai envie, avec mes collègues, de mobiliser l'énergie collective autour de l'idée plutôt de la continuité, de la fluidité. Et donc, je passe par le décloisonnement et par une réflexion systématique pour tous les produits que nous utilisons, de façon à rester cohérent. On ne peut pas continuer de considérer notre action d'entreprise sans considérer la planète sur laquelle nous vivons. Voilà à peu près le raisonnement qu'on tient.
Mais on aimerait bien que votre raisonnement soit partagé par un maximum de monde, d'où cette émission. Olivier Hamant, ça implique quoi concrètement pour un entrepreneur, par exemple, de passer de la performance à la robustesse, qui est votre credo ?
Ben, alors je vais rebondir exactement sur ce que vient de dire Emmanuel, parce qu'en fait, le côté, un des attraits de passer à la robustesse, c'est qu'on n'a plus de problème de recrutement. Parce que si on bascule vers la robustesse, le sens de l'entreprise est là. C'est-à-dire qu'en fait, on est durable, on se projette dans la durée, on sait qu'on n'aura pas d'impact sur les milieux naturels, ou peu d'impact sur les milieux naturels. Ça, pour les néo-recrutés, les jeunes, ceux qui veulent rejoindre les entreprises, c'est une valeur clé. Et aujourd'hui, moi je parle pas mal aux entrepreneurs, ils ont tous des problèmes de recrutement. Hein. C'est vraiment une pénurie de ressources humaines généralisée en France et ailleurs, hein. C'est mondial hein, ça. Et alors, le fait de remettre du sens dans l'activité d'un entrepreneur, c'est clé. Hein.
D'ailleurs, il y a énormément de jeunes chez Pocheco, on les voit aujourd'hui. Oui, ils ont un sourire qui en dit long sur leur plaisir de travailler dans cette entreprise. Mais plus concrètement, ça se décline comment dans l'organisation, par exemple.
Dans l'organisation. Alors, typiquement, une façon d'être robuste et d'être bio-inspiré en étant robuste, c'est d'avoir un comportement modulaire, donc de décentraliser. Donc l'idée d'une organisation très hiérarchique, très verticale, ça c'est très fragile. C'est de l'optimisation qui fragilise. Ça. C'est-à-dire qu'on sait exactement qui fait quoi, et voilà, il y a des chefs, des sous-chefs, etc. Ça c'est très fragile. Au contraire d'avoir des petites unités qui sont capables de s'organiser, d'avoir un petit peu d'autogouvernance locale, d'avoir d'esprit d'initiative, ça c'est très robuste. Et on en voit, il y a un petit peu cette idée-là dans l'entreprise libérée ou l'entreprise responsabilisante là, de Frédéric Laloux. Mais chez Pocheco, on retrouve ça. Hein. Enfin, bon, on a déjà un petit peu discuté aussi sur la construction sociale de l'entreprise, même l'échelle de salaire, etc. Tout ça, c'est des valeurs de robustesse, en fait, de sentiment d'appartenance. Mais ça, c'est de la robustesse, j'ai envie de dire, de la robustesse sociale, qui est au moins aussi importante que la robustesse écologique. Hein, parce qu'évidemment, les deux sont alignés. Hein.
Alors, la robustesse écologique, c'est aussi la circularité. Par exemple,
voilà, exactement. Donc, en fait,
alors, expliquez ce que c'est.
Oui, alors la circularité, ça veut juste dire que tous les êtres vivants sont inclus dans les cycles de la Terre. Donc, on parlait de l'eau tout à l'heure, là, les plantes évaporent de l'eau, donc ça veut dire qu'elles sont complètement incluses dans les cycles de la Terre. Et ça veut dire, en fait, dans l'économie, ça serait l'équivalent, ce serait l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'il faut concevoir ses produits et ses activités d'un point de vue circulaire, inclus dans les cycles de la Terre, sans impact. Mais ça va un cran plus loin, hein, c'est-à-dire que c'est pas suffisant de penser éco-design, éco-conception, il faut aussi penser temps long. C'est ça la vraie robustesse. Hein. Et du coup, ça veut dire qu'il faut aussi inclure les possibles effets rebonds. C'est que si on peut être très vertueux à court terme, mais à long terme, on peut faire dériver les choses. Donc,
par exemple,
c'est très compliqué.
Est-ce que vous avez un exemple ?
Alors, des effets rebonds, il y en a plein. Hein. C'est typiquement les gains d'efficience, par exemple. Je vais prendre un exemple très trivial. Les frigos, il y en avait peu dans les années 60 et ils n'étaient pas très efficients. On a augmenté leur efficience, donc ils consomment moins d'énergie maintenant. Donc on pourrait se dire, c'est une bonne nouvelle pour la planète.
Mais sauf qu'il y en a beaucoup plus.
Et voilà, donc ça c'est un effet rebond typique, on augmente le nombre d'unités et donc les frigos consomment plus d'énergie parce qu'il y en a plus. Mmh. Et en fait c'est vrai pour tout, hein, pour le kérosène des avions, etc. Enfin, donc
et ça, la quantité d'énergie qu'on consomme dans le monde, par exemple, on a ajouté les renouvelables aux fossiles et pour autant on consomme toujours plus d'énergie.
Voilà, on est passé de la transition écologique pour l'instant est encore un fantasme, on est dans l'addition écologique pour l'instant.
Kalina Raskin, pour justement passer du concept au concret, le biomimétisme, ça se décline sous plusieurs aspects, sur des matières inspirées du vivant, mais aussi des organisations. Enfin, c'est pas uniquement des objets du copier-coller de la nature.
Non, tout à fait. Peut-être pour donner un ou deux exemples assez concrets, j'ai bien envie, dans la continuité des interventions précédentes, de donner des exemples de fonctionnalités chez Pocheco, qui ont été abordées sous un angle qui est très convergent finalement de la bioinspiration. Si on regarde un petit peu la façon dont Pocheco a décidé de gérer la question de la régulation thermique et notamment du refroidissement en utilisant le principe d'évaporation. C'est le principe qui est utilisé de façon très, très générale dans le monde vivant, hein, ne serait-ce que la transpiration humaine. C'est un principe finalement de refroidissement qu'on trouve chez beaucoup d'espèces. Et donc, c'est exactement le système qui a été choisi chez Pocheco pour pouvoir refroidir son bâtiment.
Il fonctionne comment, ce système ?
Ce système, c'est un système où vous allez avoir donc des matériaux qui vont être imbibés d'eau et qui, au moment où il y aura de fortes chaleurs, l'eau va s'évaporer. Et le principe même, en fait, d'évaporation, l'évaporation va venir capter l'énergie et la chaleur qui est présente dans l'air environnant et donc venir refroidir l'air environnant. Et c'est quelque chose qu'on observe chez beaucoup d'espèces, hein, la question de la transpiration et de l'évaporation.
C'est ce que font les plantes.
Chez les animaux et chez les végétaux, tout à fait. Un autre exemple, alors à une autre échelle, le fait d'avoir développé de l'agroforesterie sur le site de Pocheco, ces pratiques agricoles d'agroforesterie sont des pratiques qui sont connues de longue date, mais sur lesquelles maintenant on a un recul scientifique en agronomie pour comprendre finalement l'interaction entre les espèces, la biologie des sols. Et finalement, on vient reproduire sur une parcelle productive humaine des principes de fonctionnement d'écosystèmes naturels où on va venir à toutes les strates, finalement, aussi bien dans les sols que dans les strates végétales et par la capacité de cette biomasse produite d'intégrer également d'autres espèces, que ce soit des insectes, que ce soit des oiseaux, des mollusques, etc., recréer un écosystème qui va être un écosystème beaucoup plus robuste, justement aux aléas, parce qu'il est diversifié versus des grands champs de production maraîchère ou céréalière qui ont évidemment beaucoup moins de robustesse par rapport à des aléas climatiques ou des ravageurs. Donc voilà, typiquement un second exemple. Un troisième exemple, si on prend encore Pocheco, ce serait le cycle de l'eau et le fait de justement de s'associer, de faire alliance avec le vivant sur cette question de la phytorémédiation et finalement s'inspirer du cycle naturel de l'eau pour venir retraiter l'eau localement sur le site en faisant le moins appel possible à de l'eau qui est retraitée.
parce qu'ici, Emmanuel Druon, vous récupérez l'eau de pluie hein, quand elle tombe, évidemment, mais vos eaux usées sont traitées en partie par une bambouseraie qui a été plantée là, à quelques centaines de mètres d'ici.
Oui, comme vous le signalez, le système naturel fait le nettoyage à condition de ne pas toxicifier la démarche. Pocheco est une usine zéro déchet. Ça ne veut pas dire qu'on ne produit pas des déchets. Mais comme on a fait l'analyse du cycle de vie de toutes les matières premières, en amont, on a cherché à retirer des recettes des produits qu'on achète et qu'on va ensuite transformer, ce qu'il pouvait y avoir de toxique, en travaillant avec les entreprises avec lesquelles on travaille, en cherchant des gens qui sont capables de produire ça. Et quand on additionne en fait ces actions, on devient une usine zéro déchet, donc avec des déchets qui sont non toxiques, qui sont systématiquement triés, rien n'est enfoui, rien n'est incinéré. On est, grâce à ce que vous décriviez, ce que décrivait Kalina, en effet, on récupère l'eau de pluie sur la toiture végétalisée. Et donc, il y a beaucoup d'évapotranspiration, là encore. C'est-à-dire qu'une partie de l'eau de pluie qui tombe sur le site, qui est renvoyée vers l'atmosphère par le système simplement de la chaleur et de la transformation en vapeur de l'eau qui est tombée. Mais le résidu est récupéré et est utilisé puisque nos produits sont non toxiques. Donc on est autosuffisant en ressources hydriques industrielles. On ne capte rien dans le réseau, pourtant très développé en France, et on sait qu'on a beaucoup de chance, le réseau de distribution d'eau. On a coupé le gaz, on a coupé le pétrole, on est zéro gaz et zéro pétrole. Nous produisons l'énergie électrique sur la toiture pour 45% de nos besoins. Et pour que cette toiture soit de plus en plus efficiente, eh bien, on baisse les consommations de l'usine en modifiant et en mobilisant notre intelligence autour de l'idée de modifier les manières d'utiliser l'énergie. En fait, ça devient, pardon, je termine là-dessus, ça devient un jeu. Entreprendre sans détruire, produire sans laisser de traces, avec ce que ça peut tenir de paradoxal, mais que voici un paradoxe qu'il est agréable de travailler.
Béatrice Crémer-Cochet, vous qui scrutez la nature en tant que naturaliste depuis de nombreuses années, quand vous entendez parler Emmanuel Druon et son écosystème créé au sein de Pocheco, finalement, c'est vraiment le fonctionnement de la nature, ça. C'est raisonner en écosystème.
Oui, d'une certaine façon. Il est arrivé à reproduire certains mécanismes qui se produisent spontanément dans la nature et finalement à rentrer dans cette grande boucle des cycles de l'eau, du carbone, etc., en ayant un minimum d'impact. Donc c'est quelque chose de tout à fait remarquable et de tout à fait louable. Et je dirais qu'en fait, si on regarde bien les choses, la nature, pour peu qu'on lui laisse la place, l'espace, le temps, elle nous fait beaucoup de choses gratuitement. Si on reprend l'exemple des cours d'eau, et si on préserve la forêt des bords des cours d'eau, qu'on appelle la ripisylve ou la forêt alluviale, eh bien on se rend compte, quand on fait des mesures de nitrate et de phosphate, donc qui sont les polluants majeurs de nos nappes phréatiques actuellement, on fait des mesures du taux de nitrate et de phosphate à l'entrée de la ripisylve, donc à l'amont, et à l'aval de la ripisylve, donc à l'aval, après le passage dans la forêt alluviale, eh bien on se rend compte que le taux de nitrate et de phosphate a fortement diminué. Alors pourquoi ? Parce que les arbres puisent ces éléments minéraux par leurs racines, ils s'en servent en association avec le CO2 de l'air qu'ils captent et qu'ils vont transformer grâce à l'énergie solaire en matière organique, ils font leurs branches, leurs feuilles, leurs fleurs, etc. Et donc ils jouent un rôle de station d'épuration gratuite. Et ça, certaines villes, en Europe ou même dans le monde, l'ont parfaitement bien compris. Notamment, je pense à Munich et à New York. À Munich, les Munichois ont parfaitement préservé toute la forêt de pente des Préalpes bavaroises, qui est située au sud de la ville. Et du coup, ça leur permet d'avoir, alors c'est les services, si vous allez sur le site des services municipaux de la ville de Munich, d'avoir l'eau, c'est leur slogan, de la meilleure qualité au prix le plus équitable. Et le prix le plus équitable, pour eux, c'est 1,72 € le mètre cube d'eau. À titre comparatif, en France métropolitaine, le prix moyen du mètre cube d'eau, il est de l'ordre de 4 € le mètre cube. Donc, quelque part, préserver des environnements naturels, leur laisser, les laisser fonctionner et remplir leur rôle, ça retombe positivement sur nous aussi. Parce que non seulement on fait des économies, mais ça permet aussi à des populations socialement défavorisées d'avoir accès à un bien essentiel qui est l'eau. L'eau potable.
Olivier Amand.
Je voulais rebondir sur l'idée aussi sur Pocheco. Il y a quelque chose d'assez fondamental, c'est la diversité des approches. C'est qu'en fait, si on veut vraiment avoir une approche d'un peu de symbiose industrielle, de lien vraiment écosystémique dans son entreprise, il faut avoir plein de solutions, mais toutes connectées les unes aux autres. Et c'est comme ça aussi qu'on déjoue l'effet rebond, d'ailleurs. Hein, parce que du coup, c'est pas réductionniste. Il n'y a pas juste un problème à régler, il y en a plusieurs. Et c'est comme ça que fonctionne le vivant. C'est toujours quelque chose qui est multifonctionnel. D'ailleurs, c'est ce que disait Kalina ce matin dans les rencontres. C'est ça la clé, la diversité associée à des solutions qui sont toutes biosourcées. Et là, on est sur la bonne voie, quoi.
Économiquement, dans un marché en effondrement, les systèmes tels qu'ils sont ici décrits et tels que nous les tentons de les démontrer sur ce site d'entreprise industrielle nous permettent de tenir face aux crises. Donc probablement qu'en effet, une forme de complexité et de l'accepter comme telle est à la fois une joie, une curiosité, mais aussi va chercher du côté de la créativité, de l'inventivité et, comme le rappelait Gilles Boeuf dans une des interventions ce matin, de l'information scientifique précise. On n'est pas dans l'opinion, on est quand même au travail pour essayer collectivement de comprendre comment nous allons inventer les systèmes de notre survie collective au XXIe siècle.
Et comment on change d'échelle pour faire tout cela ? On en parle juste après Ibrahim Malouf. Novo som, funk, dança, chama toda a vizinhança. Baixo bom, 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 ano inteiro no balé. É popular, é natural. A vibe tá no ponto, vem que vai que ser legal. Vem que vai que ser legal. Vem que vai que ser legal. Quero te convidar, vem somar, vem cá curtir. A vida é muito curta, quero me divertir. Vamos passar um ano todo, todo no verão. Música é cura, salva o seu coração. É só você relaxar, só balançar. Toque, 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 deixa a gente entrar. Vem no pão pararão, vem pra cá zoar. Essa noite pra sair, a lua é toda nossa, vem cá se divertir. Quero passar o ano todo, todo no verão. Música é pura, salva o seu coração. É só você relaxar, só balançar. Toc, 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 deixa a gente entrar. Vem no pão pararão, vem pra cá zoar. Vem aqui com a gente, ó. Todo mundo se reúne. Ó, 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 passinho, ó, ó, passinho, ó. C'est pas du vent sur RFI. Notre studio est installé dans les bureaux de l'entreprise Pocheco près de Lille dans le nord de la France qui démontre depuis 25 ans avec la méthode de l'économie que nous pouvons produire sans détruire. Et c'est pour partager son expérience que les dirigeants de Pocheco ont organisé cette semaine la deuxième édition des rencontres de l'économie autour du thème « Comment engager son entreprise dans l'économie de la transition ?» en s'inspirant du vivant. Alors, nous avons bien compris la théorie de s'inspirer du vivant, on a bien compris la pratique à travers tous les exemples que vous nous avez donnés. Ça semble simple, finalement, quand on vous écoute. Donc, qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est dans la situation dans laquelle nous sommes ? Olivier Hamant, vous qui parlez régulièrement à des chefs d'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'on délaisse le vivant à ce point et on continue à foncer dans le mur en appuyant à fond sur le klaxon, comme disait Emmanuel Druon ?
Il y a clairement une question d'éducation. On s'est déconnecté au vivant et on a beaucoup de mal à se reconnecter au vivant parce que c'est un objet distant, utile. En fait, alors, je peux citer qu'avec l'Institut Michel Serres et Éric Julien, on avait fait venir des Indiens Kogi de Colombie. Donc, ils sont des Indiens qui sont vraiment peuple premier, qui sont dans leur vie, dans les cimes colombiennes. Et quand ils sont arrivés à Paris, donc c'était la première fois qu'ils sortaient de leur territoire, ils n'ont pas dit « ça pue, il y a du bruit », ils n'ont pas dit ça, hein. Ils ont dit « comment faites-vous pour apprendre ?» Comment faites-vous pour apprendre ? Et ça, ça dit tout, je crois. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on s'est tellement déconnectés qu'en fait, on est des ignorants. Et donc, une fois qu'on a compris ça, d'un seul coup, on ouvre les yeux sur la nature. Et là, il y a une librairie de solutions, mais énorme. Et en plus, c'est des solutions qui ont fait leurs preuves pendant des millions d'années. Donc, il n'y a plus qu'à les suivre. Et donc, les entrepreneurs, en fait, ils sont à l'écoute de ça, justement parce qu'ils rentrent dans le mur du développement durable, dans le mur de la performance. Il y en a la moitié qui sont en burn-out. Donc, du coup, ils sont plutôt fertiles. Enfin, certains, pas tous, évidemment, mais il y a une bonne partie qui est quand même fertile pour ces questions-là. Et il n'y a plus qu'à ouvrir un petit peu les chakras. Alors, cette idée de robustesse, c'est une façon. Il y a certainement d'autres entrées. Mais notamment parce qu'ils font face à des crises, à des turbulences, à des fluctuations permanentes, ça leur parle. Parce que finalement, ils sont comme un être vivant qui est soumis à des fluctuations. Et du coup, il faut trouver des solutions robustes.
Galina Raskin, avec le Cébios, vous accompagnez beaucoup de recherches. Vous... finalement coordonner pas mal les liens entre les entreprises, les laboratoires. Enfin, c'est un beau promontoire pour voir comment est-ce qu'on s'inspire de plus en plus du vivant. Concrètement, ça donne quoi ? C'est sur la bonne trajectoire ?
Alors, la trajectoire est plutôt bonne, plutôt très bonne même, avec des laboratoires de recherche qui s'organisent actuellement pour pouvoir se doter collectivement de moyens, pouvoir... être plus visible, se battre au niveau des politiques publiques, donc pour qu'il y ait des appels à projets dédiés et ainsi pouvoir développer des recherches en disruption par rapport à ce qu'ils ont pu faire avant. Le monde industriel s'y intéresse également de plus en plus, mais il se retrouve démuni. En fait, il voit bien qu'il y a un intérêt dans le sujet du biomimétisme, mais en rebondissant sur ce que vient de dire Olivier, vous allez dans du secteur automobile, dans du secteur aéronautique, ils sont pas de biologistes. Ils ont aucune habitude de recruter des gens qui ont un cursus de biologie. C'est pas du tout dans leur culture. Donc, il y a un enjeu de pouvoir leur ouvrir un petit peu leur perspective et leur regard. C'est-à-dire, mais intégrer finalement des biologistes à la table à dessin pour qu'ils réfléchissent avec vous à d'autres stratégies. Et puis, en termes de politique publique, oui, ça évolue aussi. C'est peut-être ce qui est le plus lent.
C'est peut-être comme
clairement, clairement ce qui est le plus lent. Mais voilà, si on a le monde de la recherche, si on a le monde de l'entreprise, de l'économie et le monde citoyen qui se mobilise en faveur de nouvelles alliances avec le vivant, les politiques publiques n'auront pas le choix que de poursuivre. Et voilà, s'il y avait un frein premier sur lequel il faudrait travailler, moi je rejoins complètement ce que vient de dire Olivier, c'est l'éducation. Moi j'ai deux jeunes enfants qui ont 9 et 11 ans. Je suis effarée de voir le peu de biologie qu'on leur enseigne. Voire de la biologie presque erronée que l'on renseigne. Donc il y a aussi un problème de formation des formateurs. Quand vous êtes en école primaire et qu'on vous apprend donc les grandes catégories du vivant, donc en gros, il y a l'homme, les animaux et les plantes. Enfin, je caricature pas, c'est écrit. Hein, donc j'ai dû moi-même faire un mot à la maîtresse en disant « Mais attendez, là, vous racontez des bêtises. » Donc déjà, l'homme est parmi les animaux et puis il y a d'autres espèces, il y a des champignons. Qui
des bactéries.
Des bactéries, il y a plein d'autres choses. Il y a un moment donné, il va falloir que ça soit ancré aussi dans des programmes de l'éducation nationale et que l'éducation nationale soit elle-même mieux formée pour transmettre d'autres choses à nos enfants. Et il y a bien... Moi, s'il y a... voilà, trois choses que je souhaite aux générations futures pour être en capacité d'affronter ce qu'ils vont devoir affronter et qui ne va pas être tout rose. Hein. C'est un, réapprendre le vivant, et ça m'a beaucoup touchée, ce témoignage des Indiens Kogi, à savoir, mais comment vous faites pour apprendre ? Moi, voilà, je pense qu'il va falloir réamener d'urgence nos enfants dans la nature et leur réapprendre à observer et comprendre la nature et l'environnement qui les entoure. Leur apprendre à raisonner en collectif. Aujourd'hui, on a des écoles qui nous apprennent à être individualistes, clairement. Et on voit bien que si Poche Eco arrive à faire ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il y a eu de la coopération et il y a eu des impulsions collectives pour pouvoir arriver à faire tout cela. Et puis, un troisième enjeu qui va être aussi majeur, qui sort un peu du cadre de la discussion d'aujourd'hui, mais qui me semble majeur, c'est leur apprendre à gérer des conflits. Voilà. Apprendre à gérer, gérer et à répondre à des problématiques complexes en commun et sans conflit. Et ça, ça personne ne leur apprend à faire
ça. C'est presque l'apprentissage d'une vie. Emmanuel Druon.
Apprendre à gérer les conflits intérieurs aussi. Notre intériorité est beaucoup confrontée à des paradoxes qui sont souvent des cassures. J'entends combien de gens me dire « je pense ainsi, mais je fais autrement » parce que les objectifs que me fixe l'entreprise sont tout à fait en déphasage par rapport à l'information que nous livrent les scientifiques, tout à fait en déphasage avec les convictions de la personne. Oui, mais ce sont les objectifs de l'entreprise. Et vous voyez des gens qui sont déchirés. Donc, apprendre aussi à résoudre nos conflits intérieurs.
Béatrice Crémer-Cochet, vous êtes dans l'action aussi avec Forêt Sauvage. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
C'est une association que nous avons créée avec un groupe d'amis et dont mon mari Gilbert Cochet est président, j'en suis vice-présidente. Et nous avons, disons, deux actions principales. D'une part, nous publions une lettre, une newsletter qui est sur Internet, qui est gratuite, accessible à tous. Vous tapez Forêt Sauvage au pluriel, vous allez tomber dessus, qui permet de sensibiliser les gens et de les éduquer, justement, puisqu'on parlait d'éducation, à l'intérêt de la libre évolution, à l'intérêt de faire confiance à la nature et de laisser, non pas toute la planète en libre évolution, mais une partie suffisante pour que ces processus naturels et ces fonctionnements naturels puissent s'exprimer. Et la deuxième action que nous avons, qui n'est pas négligeable non plus, c'est que grâce à l'argent de nos donateurs, nous acquérons des parcelles de forêt, justement, qui ont un intérêt écologique, que nous laissons en libre évolution ad vitam aeternam. Et oui, nous avons constaté une chose très positive, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de cette nécessité de lâcher prise, en quelque sorte, et d'accepter de changer un petit peu le logiciel qu'on a dans la tête. Instinctivement, l'homme, il a envie de tout gérer. Je pense que c'est un réflexe qui est dû à un besoin de sécurisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on gère, on s'assure une sécurité. Mais en réalité, les Américains disent que vous voulez tout gérer, vous voulez empêcher la nature de fonctionner, vous vous préparez un dur labeur. Et changer le logiciel qui est dans nos têtes, je pense que c'est extrêmement important. La place pour la nature sauvage, elle existe, même en France métropolitaine. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est faire la place dans nos têtes pour accepter la présence de cette nature sauvage, de cette nature qu'on ne va pas entretenir. Les forêts existaient bien avant l'homme et elles se débrouillaient très bien toutes seules.
Olivier Amand.
Je voulais juste rebondir là-dessus parce qu'en fait, ça, c'est fondamental. Hein. Cette idée de devoir perdre le contrôle, suspendre la maîtrise, c'est une révolution copernicienne actuellement. En fait, on est en train de terminer le néolithique. Depuis le néolithique, on a voulu contrôler la nature, finalement. C'est ça, le résumé du néolithique, c'est on contrôle la nature, domestication, agriculture. Aujourd'hui, on va rentrer dans un monde où il faut laisser la maîtrise, quoi, perdre le contrôle.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Perdons le contrôle tous ensemble. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Olivier Amand, je précise que vous serez l'invité de l'émission Autour de la question mardi prochain sur RFI à 14h10, temps universel. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le CBIO, sur Forêt Sauvage et sur Pocheco, sur la page internet de l'émission. Nous mettrons tous les liens en ligne et aussi sur ces rencontres, ces deuxièmes rencontres de l'économie. Merci donc à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Louise Pichet qui nous a aidés à la préparation, à François Porcheron pour la réalisation et l'installation de ce studio dans les bureaux de Pocheco. Quant à vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir comme d'habitude par mail cestpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.
$7 milliards de